fera 40-61. Évaluation formative. Écoute. La contrebande. Les récentes hausses de taxes sur le tabac et l'alcool risquent de donner un second souffle au réseau de contrebande en hibernation depuis quelques mois. Même si la contrebande au Québec possède une assez longue histoire, elle a pris une ampleur démesurée depuis quelques années et elle pourrait fort bien entraîner des conséquences très coûteuses. Ses origines. Au Québec, il ne fait aucun doute que la contrebande est et a toujours été dominée par les Amérindiens, bien que quelques réseaux de blancs parviennent tant bien que mal à leur faire de la concurrence. Selon un responsable de Douane et Accises Canada, plus de 90% des produits passés en fraude chez nous le sont par des Amérindiens. Si au XVIIe siècle, les pots et l'alcool formaient l'essentiel du trafic entre la Nouvelle-France et son voisin du Sud, les choses ont évolué depuis ce temps. Aujourd'hui, tous les produits américains font l'objet de la contrebande. On parvient assez facilement à éviter les contrôles douaniers, aussi bien aux voitures neuves et d'occasion qu'aux appareils électriques, aux vêtements et aux bijoux. Selon Joe Norton, chef de bande, les Autochtones ne reconnaissent pas le pouvoir blanc et encore moins les frontières qu'il a établies sur leurs terres ancestrales. En d'autres mots, ils sont chez eux aussi bien dans l'État de New York ou dans le Maine qu'au Québec, et rien ne leur interdit de commercer à leur aise, même le tabac et l'alcool. La contrebande du tabac. On dit généralement que l'occasion fait le larron. C'est bien ce qui s'est produit en 1991, lorsque les divers gouvernements ont surtaxé les cigarettes. Il s'était toujours fait un peu de contrebande du tabac. Mais la flambée des prix de ce produit, qui a fait passer la cartouche de 20$ à près de 50$, a donné naissance à de multiples réseaux de passeurs, surtout amérindiens. En quelques mois, un climat de désobéissance civile s'est installé dans la province et les forces policières découvrirent qu'elles étaient pratiquement impuissantes à arrêter ce trafic. De l'avis de Louis Morin, un officier de la GRC, la lutte contre ce fléau était perdue d'avance parce que la population l'appuyait et surtout parce que les réseaux possédaient des moyens techniques contre lesquels les autorités ne pouvaient lutter. Cet aveu ne signifie pas qu'il ne s'est rien fait pour contrer la contrebande, loin de là. Le gouvernement a mis sur pied une police du tabac qui a aidé à des centaines d'arrestations et à la saisie de dizaines de milliers de cartouches de cigarettes. Pour sa part, la GRC admet avoir procédé, en 1993, à plus de 10 000 fouilles de voitures aux abords des réserves et près des frontières. Malgré ces succès des forces de l'ordre, la vente du tabac illégal n'a fait que croître tant les profits étaient alléchants. Un contrebandier avouait, devant les caméras, que la cartouche payée 8$ était facilement revendue 22$. Un sondage de Angus Reid fait état qu'en 1993, près de 8 paquets de cigarettes sur 10 étaient d'origine illégale. La situation est devenue à ce point catastrophique que le ministre des Finances de la province dut admettre que les rentrées de taxes provenant de la vente du tabac avaient baissé des 2/3 et que la contrebande faisait perdre au Québec plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Des criminologues aussi réputés que Jean Harpin et Louis Dumont ont mis les autorités en garde contre le climat de désobéissance civile qui s'installait dans la population. De toute évidence, les lourdes amendes imposées aux contrebandiers arrêtés et même les peines de prison n'avaient aucun effet dissuasif. De plus, les gens, en général, donnaient leur appui aux contrebandiers parce qu'ils estimaient les taxes malhonnêtes et vexatoires. Ce qui a vraiment poussé le gouvernement à ramener le prix du tabac à un niveau plus acceptable. Ce furent les manifestations orchestrées du Matraque, un mouvement de petits commerçants qui vendaient des cigarettes de contrebande au vu et au su de tous, devant les caméras et avec l'approbation de la foule. Alors, le gouvernement a dû baisser pavillon. La contrebande de l'alcool, des armes, etc. Il serait faux de croire que la contrebande de l'alcool a connu ses meilleurs jours avec la période de la prohibition américaine des années 20. Bien qu'elle ait toujours été assez active, elle a pris une ampleur fulgurante avec la presque disparition de la contrebande des cigarettes entraînée par la diminution des taxes sur ce produit. Selon de récentes statistiques compilées par l'Institut Bowles à la demande des distillateurs canadiens, une bouteille d'alcool sur quatre consommée au Québec provient des États-Unis, là où elle coûte en moyenne 50 % moins cher. Selon des spécialistes, 80 % du prix de la bouteille d'alcool sont représentés par des taxes. C'est pourquoi les grands distillateurs, comme Seagram, exigent du gouvernement une baisse de ces dernières pour combattre les effets néfastes de la contrebande. D'ailleurs, la fin de l'année 1994 a été marquée par plusieurs centaines de mises à pied dans les distilleries. Seagram et ses concurrents ont dû congédier plus de 1500 employés. Des manifestations ont déjà eu lieu pour faire bouger le gouvernement dans ce dossier. Les corps policiers ont beau se vanter d'avoir démantelé une dizaine de réseaux, d'après M. Guindon, porte-parole des policiers de la CUM, au moins une centaine de bars et de restaurants servent de l'alcool illégal à leurs clients sur l'île de Montréal. Il faut par ailleurs retenir que les immenses profits générés par la contrebande de l'alcool et du tabac ont conduit les petits et grands criminels à s'intéresser de près à la contrebande des armes et de la drogue. De l'avis du criminologue Eugène Duprier, les fortunes illégales gagnées dans ces trafics n'auront été que le point de départ de trafics qui risquent de nous obliger à faire face bientôt à des maux bien plus graves. Les conséquences. Les conséquences de la contrebande sont multiples. Un haut fonctionnaire du ministère du Trésor estime que le gouvernement perd plus de 100 millions de dollars chaque année en taxes non payées. En plus, il faut compter les centaines d'emplois perdus dans les compagnies de tabac, chez les distillateurs et les distributeurs. Selon le sociologue Paul Rioux, il est fort possible que la conséquence la plus grave soit l'accoutumance du public à considérer la contrebande comme normale, voire nécessaire, tant l'appétit des gouvernements est insatiable. Si le gouvernement s'entête à surtaxer les fumeurs et les buveurs pour garnir ses coffres vides, certains spécialistes de la question craignent qu'il n'ouvre ainsi la porte à des trafics qui seront beaucoup plus dommageables à la société québécoise. En conclusion, je crois qu'il est bien évident que les hausses répétées de taxes portant sur l'alcool et le tabac ne peuvent qu'amplifier la contrebande et inciter les Québécois à la désobéissance civile. Il est fort possible que la solution la plus sensée vienne alors du sociologue André Cousineau, qui suggérait récemment de réduire les taxes sur ces produits pour décourager la contrebande et du même coup exiger que les compagnies productrices couvrent les frais de campagne publicitaire massive contre l'usage du tabac et de l'alcool. Fin de l'écoute.